Well, it's something, I ain't the weed man, though. But if you give me 15 minutes, I call my folks, he be at the door. Connecting four marine batteries on one side of the trunk to go with them other four batteries that's powering the pumps. It's the juice in them cylinders that make the Chevy jumps. You already know, I ain't gotta tell you about it, partner. Your bitch stay talking and you steady eavesdropping.
Yeah. Rolling trees seem to do something for you.
Blood, Sweat and Gears, c'est Currency et Alchemist qui sont en ce moment sur les ondes de Radio Escapade. Mais il est 12h30, on écoutera donc ce morceau une autre fois dans la playlist. 12h30, c'est en effet l'heure de démarrer les nouvelles du monde.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein ? Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué, les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 5 mars 2024. Mardi 5 mars, on commence donc déjà eh bien, par rappeler le rendez-vous de ce jeudi 8 mars, puisque le 8 mars, vous le savez sûrement, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc une journée marquée sous le sceau des combats féministes en tout genre, qui va prendre en plus un petit relief particulier cette année avec l'inscription toute récente de l'IVG dans la Constitution en France. Mais ça sera donc l'occasion de parler encore aussi dans ces nouvelles de nombreuses problématiques, notamment celle du traitement juridique des viols et des violences sexuelles et sexistes. Donc ce 8 mars, je voulais donner ça comme information en préambule. Rendez-vous à Ganges dès 11h30 devant la clinique de Cap Santé, puisque vous le savez certainement, la maternité de Ganges est fermée depuis maintenant 2 ans et du coup aucun accouchement n'y est plus possible. Hormis eh bien, pour les courageux qui tentent de rejoindre une maternité en voiture, peut-être des fois au bord de la route, comme vous l'avez peut-être entendu dans l'émission Alter Midi qui a eu lieu ce lundi hier à midi également, où cette question a été largement discutée. Donc on en parlera beaucoup ce 8 mars à 11h30 à Ganges devant la clinique. C'est une manifestation et un rassemblement qui est appelé d'ailleurs par l'intersyndicale locale, hein, CGT, Confédération Paysanne, Sud FSU, le Parti Communiste, les Insoumis, la Fédération Anarchiste, la CGS, FA, Génération Écolo et bien évidemment la Maternité à défendre, le collectif qui est dédié donc à cette lutte. Rendez-vous pour des prises de parole et une grillade féministe dès 11h30, donc il y aura à manger, puis 12h30, ça sera le départ en manifestation. Et il y a aussi bien évidemment de nombreux rassemblements et manifestations dans toutes les villes de France. On va s'intéresser, comme la Cour européenne des droits de l'homme, justement, à ce qui se passe en France, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a pas mal de pain sur la planche en ce moment avec notre actualité. Vous allez le voir tout au long de ces informations. Mais tout d'abord, justement, pour la question des violences sexistes et sexuelles, c'est dans Mediapart que l'on s'intéresse peut-être à une condamnation prochaine par la justice internationale de la France, notamment pour le traitement judiciaire de toutes les procédures qui concernent des viols. 8 requêtes ont été déposées à la Cour européenne des droits de l'homme ces dernières années. Elles vont être traitées de manière justement simultanée. Et Mediapart a pu se procurer ces requêtes. C'est un chiffre inédit déjà par son ampleur, hein, 8 affaires. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été fortement médiatisées. On peut parler de l'affaire de Luc Besson, de celle du fameux 36 Quai des Orfèvres, avec cette touriste canadienne et les policiers de la PJ. D'autres de ces affaires sont passées plus inaperçues, mais dans tous les cas, la France a prononcé une relaxe, un acquittement ou un non-lieu. Eh bien, toutes ces femmes estiment avoir été donc, par cette non-procédure, une deuxième fois victimes par le traitement justement qu'a fait la justice française de leur témoignage tout au long de la procédure judiciaire. On peut revenir avec les mots d'Adèle Haenel de 2019, qui expliquait justement dans les colonnes de Mediapart son choix initial de ne pas porter son affaire à elle devant la justice, en raison, dit-elle, d'une violence systémique de l'institution à l'égard des femmes. Ces propos avaient suscité de vives réactions au sein du gouvernement, indigné, même Christophe Castaner, à l'époque Premier ministre, avait dit « il faut absolument porter plainte », etc. Une injonction à porter plainte, donc, qui est le discours tenu au plus haut sommet de l'État, et plus largement d'ailleurs par les pouvoirs publics, lorsqu'une personne dénonce publiquement des violences sexuelles. Pourtant, quand on regarde les chiffres, justement, concernant l'issue judiciaire de ces plaintes, eh bien, c'est accablant. D'après les dernières données de l'INSEE, qui ont été compilées à d'autres données du ministère de la Justice en France, pour l'année 2020, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol ont été condamnés. Et seulement 10% des plaintes débouchent ensuite sur des condamnations. Alors même si le ministère de la Justice conteste ces chiffres, notamment parce qu'il dit qu'il y a plein d'affaires qui sont en cours et que ça met en moyenne au moins un an à être traité, donc il revient sur ces chiffres, il en a évidemment des meilleurs à proposer. Dans tous les cas, on peut quand même voir que 9% des victimes de viol portent plainte. Et pour celles qui parviennent à passer la porte d'un commissariat, plus de la moitié de ces plaintes est ensuite classée sans suite, avec à chaque fois quasiment toujours le même motif, infraction insuffisamment caractérisée, donc manque de preuves. En janvier dernier, la France avait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire bien spécifique. Une femme dénonçait par mail les agissements sexuels de son supérieur hiérarchique, son chef, il l'a attaqué en diffamation, et les tribunaux français ont considéré que, comme elle n'avait pas porté plainte, ça prouvait à démontrer sa mauvaise foi. Et bien là-dessus, la Cour européenne des droits de l'homme a donné tort à la France. En effet, une fois les voies de recours épuisées en France, les personnes se disant victimes de violences sexuelles peuvent aller devant cette Cour européenne de justice dans l'objectif de faire condamner leur pays. La Cour n'accepte de se pencher que sur environ 10% des requêtes. Et donc, vous l'avez compris, pour les années seulement 2022 et 2023, ça fait 8 affaires qui sont validées et qui vont donc être traitées, examinées par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas rien. La majorité des requérantes, je vous le disais, plaidaient ce qu'on appelle la victimisation secondaire, une notion récente de cette Cour européenne des droits de l'homme qui justement met en avant le préjudice lié à un mauvais traitement de la plaignante depuis le dépôt de la plainte jusqu'au débat devant le juge. Ce mouvement met la France, son code pénal et ses pratiques judiciaires sur le grill. Cela peut conduire à un moment détonnant durant lequel une pratique judiciaire ou une jurisprudence de longue date qui ne pose de problème à personne, se retrouve brusquement retoqué par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que prévient Nicolas Hervieux, un enseignant à Sciences Po, spécialiste justement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces quelques affaires, donc, dit-il, vont permettre de saisir d'un seul coup l'ensemble des problématiques et des failles qui ont été identifiées dans le droit français sur tous ces enjeux. Le service presse de la Cour européenne des droits de l'homme confirme d'ailleurs de son côté aussi que ça va être un moment assez important pour la Cour européenne des droits de l'homme, donc toutes ces affaires de viol en France. Si on vient un petit peu sur le fond de ces affaires, justement pour ces 8 affaires, un dénominateur commun semble apparaître à chaque fois, c'est celui de la notion d'emprise, qu'elle soit psychologique ou financière, ou souvent les deux. L'emprise, cette espèce d'ombre qui rampe dans tous les dossiers, ce sont les mots de l'avocat Pascal Créange, qui défend par exemple l'actrice Sainte Van Roy, dans son recours devant la Cour des droits de l'homme européenne, après une enquête bâclée suite à sa plainte pour viol contre Luc Besson, le réalisateur. Ce Luc Besson était justement accusé d'emprise psychologique sur l'actrice. Eh bien aujourd'hui, la loi ne permet pas de reconnaître l'emprise dans les cas de viol. Le seul élément sur lequel peuvent s'appuyer les plaignantes est la notion de contrainte, qui apparaît dans la définition pénale, une contrainte qu'elle soit morale ou économique. Mais seulement, ça reste difficile à objectiver, et c'est rarement retenu par les magistrats d'ailleurs, qui sont d'ailleurs peu formés à se saisir de cette notion. Ce n'est pas non plus le cas d'ailleurs des victimes qui ont été reconnues en état de sidération. Là, on parle d'un choc psychique qui empêche toute réaction ou riposte de la part de la victime, et dont la Cour européenne des droits de l'homme aura à se saisir aussi, par exemple, dans une de ces 8 affaires. De fait, toutes les requérantes demandent à cette juridiction européenne de se pencher sur l'efficacité donc de la définition même du viol dans le code pénal, qui est pour l'instant rédigé ainsi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, tout cela donc est un viol. Et donc le consentement, malgré le fait qu'il n'apparaît pas dans la loi, est au cœur de ces dossiers. Car c'est une arme de défense des agresseurs aujourd'hui, déplore l'avocate Marjolaine Vignola, qui rappelle que la Convention d'Istanbul, signée en 2014 et que la France a ratifiée, eh bien, oblige la France à changer sa loi pour intégrer notamment l'examen du consentement dans le contexte des circonstances environnantes. Plus précisément, par exemple, l'état d'ébriété de la victime, est-ce qu'on est sous ou pas, le lieu de l'acte sexuel, la position sociale de la victime vis-à-vis de l'agresseur, tous les éléments qui devraient renforcer les éléments négatifs contre l'agresseur présumé se retournent en fait contre la victime, explique une magistrate, Magali Lafourcade, qui est secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle met elle aussi donc en cause la définition actuelle du viol. Aujourd'hui, dit-elle, on va chercher la crédibilité de la dame, on la passe au crible des médecins psychologues et psychiatres pour vérifier qu'elle n'est pas affabulatrice ou mythomane. Elle propose plutôt d'aller titiller les hommes mis en cause, ce qui serait possible avec une nouvelle définition basée sur les circonstances environnantes du consentement. On pense ici à l'affaire assez terrible qu'avait connue cette touriste canadienne, qui avait été complètement, toute sa vie personnelle avait été fouillée pour montrer que c'était une femme de mauvaise vie et que donc en gros n'avait pas été violée par les hommes alors que c'était pourtant le cas et que ça avait été avéré par des médecins. Le 6 février dernier, d'ailleurs, puis si on revient sur cette définition de viol, le gouvernement français a refusé d'approuver l'article 5 du projet de directive européenne contre les violences faites aux femmes. Cet article allait rendre obligatoire une définition du viol basée sur la notion justement de consentement, et ce pour tous les États membres de l'Union européenne. La France a refusé, mais en cas de condamnation donc dans les affaires qui arrivent par la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, elle devra être obligée de changer sa loi. Et si elle refuse, ce sera la jurisprudence de la Cour de cassation qui y sera contrainte. Bon, si la France décidait finalement de s'aligner sur ce mouvement européen qui est en marche, donc contre les violences sexistes et sexuelles, un plus grand nombre de plaintes seraient instruites, ce qui nécessiterait évidemment de prendre en compte la surcharge actuelle des tribunaux, qui sont déjà surchargés, faute de moyens alloués à la justice. Et puis aussi, on pourrait rajouter le nombre d'affaires liées aux stupéfiants qui encombrent tous ces tribunaux. Un autre débat peut-être à tenir aussi. Quelques chiffres pour terminer, trouvés sur le site de l'Observatoire des violences faites aux femmes. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viols, de tentatives de viols et ou d'agressions sexuelles, ce chiffre est estimé à 217 000 femmes. Évidemment, des chiffres à prendre au minima. De la même manière que pour les chiffres des violences au sein du couple, il s'agit d'une estimation minimale, puisque 40%, je crois, de ces agressions se font au sein d'un même couple. Dans 49% des cas, en tout cas, les agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime, femme ou homme. Et dans 21% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Et voilà, le chiffre était ici.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde.
Allez, champion du monde, record du monde, peut-être même encore des chiffres à inscrire au Guinness Book de l'humanité. Des chiffres ramassés dans les colonnes de brèves du journal Reporter. En 50 ans, la consommation mondiale de ressources naturelles a triplé. On parle d'énergie fossile, de biomasse, de métaux ou d'autres matériaux. C'est ce qui ressort du Global Resource Outlook 2024, un rapport publié ce 1er mars par un groupe international d'experts des Nations Unies. Cette consommation d'ailleurs continue de croître, d'augmenter en moyenne de 2,3% par an. À ce rythme, et en l'absence d'actions urgentes et concertées, l'extraction des ressources pourrait passer de 100 à 160 milliards de tonnes par an. On en est à peu près à 100 milliards de tonnes. Ça ferait une hausse de 60% entre 2020 et 2060, alerte les experts. Pour le détail, 4 secteurs comptent à peu près quasiment la totalité de cette exploitation. À 90% de la demande en matériaux provient de la construction de bâtiments, donc béton et ferraille, de l'agriculture, principalement pour la chimie, j'imagine, et l'alimentation. Et enfin, les transports et l'énergie. Or, l'extraction et la transformation de toutes ces ressources comptent à elles seules pour 55% des émissions de gaz à effet de serre, les fameuses responsables du réchauffement climatique. Et la biomasse, là on parle plutôt des ressources exploitées par l'agriculture et la foresterie, est responsable à elle seule de 90% de l'utilisation des terres, ce qui amène à une grosse perte de biodiversité et au stress hydrique. Et à noter que dans toutes ces biomasses, vous en doutez bien, c'est pas ce qu'on mange qui va principalement être le volume, le gros volume de tout ça. Ça va être aussi ce qu'on donne à manger aux animaux d'élevage ou ce qu'on met dans nos voitures aussi, puisque de plus en plus de biocarburants participent aussi à la déforestation mondiale. En tout cas, continuer sur une telle lancée, cela réduirait à néant les chances d'atteindre les objectifs climatiques et de préservation de la biodiversité. À souligner bien sûr que les disparités mondiales sont flagrantes hein, dans les pays à haut revenu, comme ici en Europe. La consommation de ressources par personne est 6 fois plus élevée et génère 10 fois plus de conséquences climatiques que dans les pays à bas revenus. Donc les pauvres sont déjà plus écolos. Mais il serait possible pour ces experts, en réorientant l'usage des ressources vers ceux qui en ont le plus besoin, de réduire nos consommations tout en améliorant encore le bien-être et en réduisant les inégalités, ce qui permettrait peut-être d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, concluent les auteurs. Des auteurs pleins d'espoir, ou en tout cas qui font bien semblant. Ils gardent surtout l'espoir que les dirigeants lisent un jour leur rapport. Ce qui semble a priori pas très très crédible. D'ailleurs, une autre, d'autres chiffres à mettre en regard avec cette augmentation des ressources, c'est l'inquiétante explosion de l'obésité sur Terre. A priori, on est à 1 milliard d'obèses sur Terre, un nouveau record. En 30 ans, ce taux d'obésité a d'ailleurs été multiplié par 4 chez les enfants et les ados. Ces résultats inquiétants sortent d'une vaste étude publiée le dernier jour, le 29 février, dans une revue médicale anglaise qui s'appelle The Lancet, et c'était fait en collaboration avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'obésité donc touche désormais plus de 1 milliard de personnes dans le monde, avec une accélération de ce fléau dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce sont là aussi encore les pauvres qui morflent le plus. Cette épidémie a ainsi progressé plus rapidement que ce qui était prévu. D'ailleurs, a noté le professeur qui est directeur du département nutrition pour la santé et développement à l'OMS. Cette maladie, en effet, touchait en 2022 à peu près 160 millions d'enfants et d'adolescents. D'ailleurs, plus les garçons que les filles, hein, quasiment 94 millions de garçons, 65 millions de filles. Et 30 ans plus tôt, ils étaient seulement 31 millions. Donc on est passé de 30 millions à 160. Outre les causes qui sont classiquement évoquées, hein, notamment le fait de faire pas beaucoup de sport et de manger mal, eh bien d'autres facteurs environnementaux seraient peut-être à prendre en compte. Certains perturbateurs endocriniens, encore une fois, comme le bisphénol A, ont été reconnus comme obésogènes, donc provoquant l'obésité. Et d'autres recherches ont également montré que des niveaux plus élevés de PFAS, ce qu'on appelle les polluants éternels dans le sang de la mère pendant la grossesse, eh bien, des taux donc, de PFAS chez la mère pourraient ensuite conduire à une augmentation du risque d'obésité chez l'enfant. Une transition vers une alimentation saine est nécessaire pour freiner l'augmentation de l'obésité, ont donc conclu assez logiquement les chercheurs dans cette étude. Cette mutation vers une augmentation plus saine pourrait aller de pair avec une transition agroécologique peut-être, car en effet, manger bio diminuerait là aussi les risques d'obésité et de surpoids.
C'était vraiment très intéressant.
Les PFAS, justement, ces fameux polluants éternels, on va en parler puisqu'il y a eu une action ce samedi. D'autres militants qui ont visiblement eux aussi pas cru les explications des pouvoirs publics, hein, des militants d'Extinction Rebellion et de Youth for Climate, ont en effet envahi une usine de l'entreprise Arkema au sud de Lyon. C'était donc ce samedi 2 mars. Une journée porte entrouverte, comme ils l'ont appelé, pour dénoncer donc la pollution aux polluants éternels de ce groupe chimique, notamment sur son environnement proche. Le raid était plutôt bien organisé, hein, vêtu de combinaisons blanches, comme ça avait été le cas dans les cimenteries BTP de Lafarge, pardon, des combinaisons blanches de type labo. 300 à 400 militants donc de Extinction Rebellion et Youth for Climate se sont élancés depuis les rails du train avec lequel ils sont venus vers le site industriel d'Arkema. L'usine qui dresse sa carcasse de tôle et de tuyaux donc au sud de Lyon a été pénétrée avec l'aide de pinces coupantes qui sont passées par donc, les grillages extérieurs. Cette vague blanche a pénétré la zone industrielle avec des tags marquant son passage. On pouvait lire sur des banderoles aussi « Arkema nous empoisonne »,« Assassin », »,« Arkémenteur », etc. Des messages assez clairs pour donc dénoncer la pollution et l'empoisonnement même des populations locales. Cette usine d'Arkema est en effet donc installée aux portes de la vallée de la chimie. Vous le savez sûrement, Lyon, c'est une grande capitale de la chimie industrielle. Et Arkema fabrique notamment un polymère qui est utilisé dans la fabrication des microprocesseurs ou des batteries au lithium. Elle rejette des quantités considérables de composés perfluorés, donc ces fameux PFAS, ceux qu'on appelle les polluants internels, dans le fleuve à côté qui s'appelle le Rhône. Ce fleuve les transporte ensuite en direction de deux champs captants qui alimentent une centaine de communes en eau courante. Jusqu'à 3,5 tonnes de ces PFAS étaient ainsi déversées chaque année, selon un rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable qui a été publié en avril 2023. Ça ferait à peu près 220 000 personnes touchées sur ce bassin versant. Or, une exposition prolongée aux PFAS peut entraîner donc de nombreux problèmes de santé. On vient d'en parler, les problèmes de diabète, d'obésité, mais aussi des lésions au foie, des maladies de la thyroïde, des problèmes de fertilité, des cancers du sein, des testicules, des reins. Cette contamination est donc plutôt bien documentée et n'est rien d'un secret d'ailleurs sur ce site qui est exploité depuis 1957. Le taux des perfluorés est surveillé, par exemple dans le sang de ses salariés depuis les années 2000. Des résultats d'analyse qui avaient été révélés par France 3 démontraient des doses supérieures à la moyenne. Et c'est une première alerte officielle sur cette dangerosité qui avait été adressée par l'ANSES à Arkema en 2011. 2011, donc première alerte des pouvoirs publics. Il a fallu attendre 2022, et notamment encore par une révélation grâce à des enquêtes journalistiques dans l'émission Vert de Rage sur France 5, où on a encore dévoilé la présence massive de PFAS dans le sol et dans l'eau de la commune. Et là, ça a un petit peu accéléré les choses. Notamment au niveau de certains riverains, une cinquantaine et 10 associations et un syndicat qui ont déposé des recours, notamment en mai dernier, un recours en référé pénal environnemental contre le groupe chimique. Parmi eux, on peut citer des mères dont le lait maternel a été contaminé et le père d'un enfant, par exemple, un enfant qui a dû subir une ablation totale d'un testicule après un diagnostic de tumeur. Toutes donc réclament une étude des risques sanitaires liés à ces PFAS utilisés. Et ils réclament aussi des sanctions contre l'industriel. Ça, c'était donc en mai dernier. Eh bien, sans succès, le référé a été rejeté. Ce qui fait qu'à l'automne dernier, 34 communes ont déposé une autre plainte collective contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, car l'exploitant Arkema n'a pas communiqué, et ce de manière systématique, les résultats des analyses des prélèvements qui ont été réalisés. Et bien justement, au cours de ces rejets sur les sédiments, la flore et la faune, alors qu'il était obligé de le faire depuis 2015. Donc une opacité entretenue volontairement. Après, je vous le disais, à la diffusion de plusieurs enquêtes journalistiques, notamment en 2022, les autorités régionales ont finalement enjoint à Arkema de ne plus en utiliser. Et ils étaient censés faire ça jusqu'à la fin de l'année 2024. L'industriel a quand même, par exemple, installé une station de filtration permettant de réduire drastiquement ses rejets dans le Rhône. Malgré tout, la préfecture a émis ce lundi de nouvelles recommandations sanitaires pour les riverains. Il est désormais recommandé de ne pas manger les fruits et légumes produits dans les jardins potagers qui sont dans un périmètre de 500 mètres autour de l'usine. Des recommandations qui existaient déjà d'ailleurs, hein, par exemple contre la consommation des œufs ou de viande, des volailles, de tous les poulaillers particuliers qui auraient été présents sur une quinzaine de communes autour de l'usine. Et fin juillet de l'an dernier aussi, Arkema avait aussi adressé un courrier aux utilisateurs de son propre jardin partagé, parce qu'elle a un jardin partagé, en leur recommandant de ne pas consommer les fruits et légumes. Bon, c'est sûr que faire un potager qu'on ne peut pas manger, ça casse un petit peu la motivation. Pour revenir sur cette action, donc de ce samedi, une action pour alerter, cette opération commando se poursuivra malheureusement face à la justice, puisque 8 personnes ont été interpellées. Elles seront jugées au mois de juin, le 18 juin, par le tribunal correctionnel. Elles sont toutes poursuivies du chef de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violence contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. L'une a été aussi embarquée pour violence sur un policier et 5 autres de dégradation. Voilà, ce sont les indications du parquet à l'AFP. Si on revient sur les recommandations par rapport à ces PFAS, et on s'intéresse un petit peu justement à tous les problèmes et aux moyens réglementaires d'y mettre fin, eh bien une analyse a été faite sur 35 substances autour de Arkema qui ont montré une présence de PFAS dans les sols, les fruits et légumes et l'eau de pluie, ou l'eau de puits d'ailleurs, tout ça utilisé pour l'arrosage des jardins. Ça c'est la préfecture qui expliquait pourquoi justement recommander à personne d'utiliser les fruits et légumes de cette région. Excusez-moi, il y a un petit problème dans le micro. On va voir si ça passe. Ouais, je crois que vous avez un faux contact. On va voir si ça va mieux. Je vais essayer de tripoter un petit peu. Bougez pas. Je mets un petit jingle en attendant.
Ouh là là !
Mais qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
C'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade. Rediffusion à 19h30.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Voilà, on dirait que ça suffit, j'ai un petit peu tout traficoté. Donc on termine sur cette histoire des PFAS et de Arkema. Les PFAS, donc, c'est ce qu'on appelle les composés polyéperfluoroalkylés. Il y a quand même plus de 4700 molécules dans cette immense famille. Sont dotés, parce qu'ils ont quand même des propriétés, c'est pour ça qu'on les utilise, de propriétés anti-adhésives et imperméables. Vous en avez notamment certainement dans vos poêles en téflon, dans les emballages alimentaires, dans les textiles qui sont imperméables, les caouets, tout ça. Dans les voitures, il y en a plein aussi. Ils sont quasi indestructibles, ils s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et donc jusque dans le corps humain, d'où leur surnom de polluants éternels. En cas d'exposition sur une longue période, je vous l'ai dit, ils peuvent avoir des effets sur la fertilité ou favoriser certains cancers, selon de premières études.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Lanceur d'alerte encore, c'est Thomas Braille qui est retourné dans son platane pour un court voyage. Platane avec vue directe sur l'hôtel de Roquelaure, le siège du ministère de la Transition écologique à Paris. C'était hier, entre 3h du matin et 17h, que ce militant écologiste s'était de nouveau retrouvé donc, en face du ministère de la Transition écologique, perché à 15 mètres de hauteur pour se faire entendre. Il a été aussi connu pour avoir mené une grève de la faim et de la soif au mois de septembre pour protester contre le projet controversé de l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse et Castres. Il voulait être reçu hier par les ministres de la Transition écologique et des Transports et ça a été fait en fin d'après-midi. Dans une vidéo qui était postée sur son compte X, il réclamait donc ses rendez-vous pour obtenir des réponses sur la situation des écureuils. C'est ce selon le nom de ces militants écolos qui se perchent dans les arbres pour empêcher leur abattage. Ils sont encore présents sur place, mais ils se font évacuer petit à petit par la gendarmerie dans des conditions justement qui interrogent et qui interpellent, voire même qui indignent. Notamment, je vous en ai parlé la semaine dernière, un rapporteur de l'ONU était intervenu sur place pour constater des fautes par les pouvoirs publics. Thomas Braille dénonce également la dégradation de cette zone environnementale et rappelle encore une fois que l'abattage des arbres ne doit pas avoir lieu avant le 1er septembre, ce pour respecter les réglementations environnementales et notamment les habitats de nombreuses espèces. Il a donc finalement été reçu hier après-midi pour exposer toutes ses doléances et parallèlement, la Cour européenne des droits de l'homme, encore elle, doit se prononcer aujourd'hui sur justement le sort de ces militants qui sont suspendus sur le chantier de l'autoroute. Des militants et des associations donc, d'opposition à l'A69 ont saisi la juridiction européenne jeudi dernier avec une requête qui dénonce les méthodes employées par les forces de l'ordre, déni d'accès à la nourriture et à l'eau potable, privation de sommeil, enfumage avec de la fumée. La démarche donc juridique vise à faire cesser sans délai les manquements des pouvoirs publics français. Sur le fond, ils accusent le gouvernement d'atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette saisine a été effectuée le même jour, d'ailleurs, que la déclaration du fameux rapporteur spécial de l'ONU, Michel Forst, qui a demandé à Paris des mesures immédiates de protection des opposants. Suite à ces communications en réaction, le préfet lui avait tout démenti en disant que c'était faux et que l'expert de l'ONU, il regrettait qu'il n'ait pas tenu compte des explications qui lui avaient été données. Voilà, visiblement, il n'aurait pas compris les explications de la préfecture sur ce qu'elle a fait, mais tout allait au mieux. Allez, on termine pour rigoler un petit peu avec un site internet qui vient de sortir et qui prouve encore une fois de plus, si besoin était, l'inventivité de nos jeunes entrepreneurs. Ça devait arriver, ce sont des étudiants de gauche en école de commerce, si ça existe, qui viennent de créer le site qui s'appelle tractomanif.com, un site qui vous permet de louer un tracteur. Ils disent ceci, jeunes étudiants de gauche en école de commerce, oui, nous existons, nous avons décidé de mettre nos talents au service du bien commun, en proposant le premier service de location de tracteurs pour les mouvements sociaux. Nous désirons offrir un revenu complémentaire aux agriculteurs, tout en participant au progrès social. Grâce à un tracteur, continue ce site, vous avez 3 fois plus de chances d'obtenir gain de cause. Nos tracteurs sont garantis pour traverser tous les barrages. En moyenne, continue le petit pitch, les manifestations d'agriculteurs obtiennent des résultats dans plus de 90% des cas. Les tracteurs sont assurés contre la casse et la saisie, mais avez-vous déjà vu la police saisir un tracteur ? Il est aussi possible de louer les services d'un agriculteur pour le piloter ou pour avoir une formation rapide au pilotage. Eh bien écoutez, voilà, il ne reste plus qu'à casser les cagnottes et puis peut-être qu'il y aura des tracteurs ce jeudi 8 mars pour les manifestations un petit peu partout en France. On se donne rendez-vous eh ben, peut-être jeudi, mais si je suis sur place justement à la manif, je ne sais pas si on arrivera à faire un direct. Dans tous les cas, vous en aurez des nouvelles très prochainement. Et puis sinon, d'ici là, portez-vous bien. Et puis on n'a qu'à écouter de la musique parce que ça fait toujours du bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.